On estime à 5% les enfants concernés par la dyslexie, ces troubles de la lecture, l'orthographe. Ce sont principalement les garçons qui sont touchés par ce problème qui leur fait prendre un retard significatif d'apprentissage. Et c'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré pour comprendre comment fonctionne le cerveau pendant la lecture, quelles sont les causes de la dyslexie et puis bien sûr comment prendre en charge ces enfants. Un chercheur, une pédiatre sont mes invités dans un instant pour répondre à vos messages et vos témoignages. Toutes vos questions, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. À la une de la science, Axel Villard, une étude rassurante sur le vaccin controversé contre le virus responsable du cancer du col de l'utérus. Bonjour.
Oui, bonjour Mathieu. L'Agence française de sécurité du médicament vient de rendre son rapport sur le Gardasil, la plus grande enquête jamais réalisée sur le sujet. Et on vous présente les résultats dans un instant pour la une avec vos questions sur Twitter.
C'est Stéphanie Texier qui réalise cette Tête au Carré qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Margot Dullard.
La Tête au Carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La dyslexie, donc ce trouble de la lecture dans le dossier dans un instant avec mes invités, la pédiatre Marianne Chatriot et le chercheur en psychologie et neurosciences Franck Ramu. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue Franck Ramu. On entendait dire hein, parfois que les enfants dyslexiques étaient des enfants paresseux. Or, ce trouble aujourd'hui, on le connaît bien, il est très spécifique et on connaît son origine.
Oui, c'était ce qu'on disait avant de reconnaître que certains enfants étaient dyslexiques. On pensait que ces enfants qui n'arrivaient pas à apprendre à lire, simplement, ils mettaient de la mauvaise volonté ou étaient paresseux. Et maintenant, au moins pour certains d'entre eux, on comprend quelle est vraiment la cause de leurs troubles. Et évidemment, ils sont pas du tout paresseux et même souvent, ils travaillent beaucoup plus que les autres.
Ouais, heureusement qu'on en sait un peu plus. Mais c'est assez récent d'ailleurs, hein, les connaissances autour de ce trouble.
Oui, ça date de quelques décennies et effectivement, ça a pris son ampleur en France depuis le plan d'action suite au rapport Ringard en 2001.
Marianne Chatriot, est-ce que la dyslexie entraîne beaucoup de perturbations dans la vie des enfants qui présentent ce trouble, lecture et orthographe, je le rappelle ?
Oui, beaucoup. Ça dépend bien sûr de l'intensité, de la sévérité du trouble, mais... De toute façon, ce sont des enfants qui déjà sont en échec avant qu'on reconnaisse les troubles au CP et ensuite qui auront affaire avec la difficulté à apprendre avec ce trouble-là.
Les enfants chancelants, c'est le titre du livre que vous signez aux éditions du Pommier. On va vous retrouver donc dans un instant avec les questions qui arrivent déjà sur le site de La Tête au Carré. Et à la une de la science aujourd'hui, le Gardasil, ce vaccin anti-papillomavirus, est-il sans risque pour la santé des jeunes filles?
Au bout de la première injection, dans les 15 premiers jours, je commençais à sentir des fourmillements aux bras et à la jambe. Ma jambe, je la sentais plus. Je me tenais à des amis.
Son père raconte qu'ensuite, l'état de santé de sa fille s'est aggravé. Elle ne se déplaçait plus qu'en fauteuil, elle avait même perdu la vue momentanément. Ce vaccin devait protéger la jeune fille du cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, les parents regrettent d'avoir suivi les conseils du corps médical.
C'est un extrait du journal télévisé sur TF1 en novembre 2013. Depuis presque 3 ans, le Gardasil commercialisé par le laboratoire Sanofi suscite beaucoup d'inquiétudes et il fait donc l'objet d'un rapport très poussé rendu aujourd'hui par l'Agence nationale de sécurité du médicament. Dominique Martin, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et de l'autre côté du fil, Dominique Dupagne, notre médecin. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Dominique Martin, les inquiétudes autour du Gardasil n'ont concerné surtout des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques. Vous avez suivi 14 de ces maladies sur plus de 2 millions de jeunes filles vaccinées. Elles sont françaises. Et pour vous, les résultats sont, je cite le rapport, rassurants.
Oui, absolument. Les résultats sont rassurants. Alors, je dois vous corriger. On a suivi 2 millions de jeunes filles, dont un tiers était vacciné et 2/3 n'étaient pas vaccinés. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé la fréquence des pathologies, des maladies auto-immunes, dans le groupe des vaccinés et dans le groupe des non-vaccinés. Et c'est cette comparaison des fréquences qui permet d'avoir des informations sur le fait que le vaccin serait éventuellement un facteur de pathologie auto-immune. Et donc globalement, ce qu'on a observé, si on prend l'ensemble des 14 pathologies, c'est qu'il n'y a pas de lien entre la vaccination et les pathologies prises dans leur ensemble.
Sauf pour deux.
Pour deux pathologies, la maladie inflammatoire de l'intestin, mais qui est une maladie extrêmement rare et pour laquelle le lien est extrêmement ténu et sur lequel on ne tire pas de conclusions particulières. Par contre, avec le syndrome de Guillain-Barré, on a là un lien statistique qui est fort, qui est significatif, qui, dans le cadre de cette étude, donc montre qu'il y a effectivement une association entre la vaccination et la survenue de ce syndrome.
Quel est ce syndrome ?
La sclérose en plaques, par exemple, pour lequel on n'a pas retrouvé de lien, qui est, la pathologie la plus souvent évoquée. Nous n'avons pas retrouvé dans cette étude de lien statistique entre la survenue d'une sclérose en plaques et la vaccination.
Quel est ce syndrome de Guillain-Barré, juste un mot ?
Alors, le syndrome de Guillain-Barré, c'est une pathologie neurologique, des nerfs périphériques, qui entraîne une faiblesse, voire une paralysie des muscles, qui peut aller jusqu'à la paralysie respiratoire et nécessitant une hospitalisation et une assistance respiratoire. C'est donc une pathologie sérieuse, mais qui a deux caractéristiques principales. La première, c'est que elle guérit dans tous les cas et le plus souvent, notamment à cet âge-là, sans séquelles. Donc ça, c'est une information importante. La deuxième information, c'est que c'est une maladie rare, moins de 1 pour 100 000. S'il y a une augmentation, il y a un risque qui est lié à la vaccination, tel qu'il apparaît à travers l'étude, il est important de bien entendre, bien sûr, qu'on est sur une fréquence à l'origine extrêmement rare. On passe de moins de 1 pour 100 000 à 1 à 2 pour 100 000.
Dominique Dupagne, donc, deux signaux sur 14 maladies, pour vous aussi, c'est des résultats rassurants ?
Oui, il faut quand même saluer cette étude. L'agence a fait le travail, c'est-à-dire qu'on lui demandait des informations sur les dangers potentiels en termes de maladies auto-immunes de ce vaccin, et cette étude a été très bien menée et apporte des informations qui sont globalement rassurantes. Alors maintenant, la question, c'est comment on interprète les résultats ? Et il y a quelques titres de la presse qui prétendent que le vaccin est totalement anodin et n'expose à aucun danger. On peut pas dire ça. Puis on va parler après du rapport bénéfice-risque. Bon, déjà, on est rassuré sur la sclérose en plaques et l'ampleur de l'étude, c'est vrai, permet de dire qu'à court terme, on n'observe pas de sclérose en plaques supplémentaires dans le groupe des jeunes filles qui ont été vaccinées. Et il y a ce syndrome de Guillain-Barré qui n'est pas anodin, mais donc la vaccination, si elle était appliquée à la totalité des jeunes filles tous les ans, provoquerait une demi-douzaine de syndromes de Guillain-Barré supplémentaires par rapport au bruit de fond, c'est-à-dire au Guillain-Barré qui est provoqué par des virus, par exemple. Mais après, on va parler du rapport bénéfice-risque qui est mis en avant, et l'ANSM est suffisamment prudente pour parler de bénéfices attendus, parce que c'est très spécial ce vaccin. C'est un vaccin qui est destiné à protéger d'une maladie qui met 20 ans à se déclarer. Et donc pour l'instant, c'est un pari, c'est-à-dire qu'on pense que ce vaccin va protéger les jeunes filles du cancer, mais on n'en a pas la preuve. Et donc le problème, vous voyez, c'est qu'on a un bénéfice qui est relativement hypothétique pour l'instant, face à un risque dont on sait maintenant qu'il est très très faible, et la question c'est de savoir comment calculer quelque chose dont le numérateur reste un point d'interrogation.
Alors Dominique Martin, justement, comment on peut estimer les bénéfices du Gardasil, sachant justement que les cas de cancer se déclareront seulement dans 20 ans a priori ?
Alors la problématique qui a été évoquée à l'instant est une problématique qui est assez classique dans le domaine des vaccins, hein, où on fait souvent un pari entre des risques immédiats et des bénéfices hypothétiques et lointains. Cette évaluation du rapport bénéfice-risque a été faite lors de la mise sur le marché de ces produits. Ce sont des autorisations centralisées qui ont été faites au niveau européen et qui a été évidemment évaluée à ce moment-là. L'idée, je dirais, assez simple, c'est que le virus est responsable d'un certain nombre de lésions au niveau du col de l'utérus et que ces lésions sont elles-mêmes responsables de la survenue de cancer et qu'il y a une chaîne physiopathologique entre virus, lésions et cancer. Et donc c'est sur ce principe-là, enfin que je simplifie évidemment à l'extrême, que est évalué le bénéfice. Mais c'est vrai, on vaccine des jeunes filles à l'âge de l'adolescence et la médiane de survenue du cancer, c'est au moins 20 ans plus tard. Donc il y a bien un pari. Mais ce qui nous semble, c'est que d'abord cette évaluation elle a été faite et on commence à avoir des informations, notamment dans les pays anglo-saxons, qui commencent à établir ce lien-là, mais c'est vrai qu'il faut du temps, c'est incontestable. Ce point-là est un point important. Mais ce qu'apporte cette étude, avec d'autres études, il est important aussi de comprendre, une étude ne peut pas répondre à elle seule à toutes les questions. Ça n'existe pas. Il faut la replacer dans le contexte de l'ensemble des études européennes et internationales. Donc, elle confirme ce qu'on connaissait. Donc, elle est rassurante sur le plan du risque. D'où l'idée que, effectivement, on conserve un bénéfice-risque favorable. Il faut se mettre dans l'hypothèse où on aurait trouvé, par exemple, un lien très fort avec la sclérose en plaques. On aurait eu une vraie préoccupation. Là, on aurait eu une vraie difficulté. Là, En fait, le syndrome de Guillain-Barré, ça n'est pas une pathologie négligeable, loin de là. Hein. Il y a bien un lien retrouvé dans cette étude, mais ce lien, il est connu a priori puisqu'il existe dans la notice du vaccin. Donc, c'est pas un facteur nouveau et on le retrouve d'ailleurs dans d'autres types de vaccinations.
Allez,
et d'ailleurs,
dernière...
on le retrouve aussi à la suite d'infections, par exemple.
Dernière question, très
vite. Dernière question pour Dominique. Oui, c'est quand même un vaccin un peu particulier d'un genre nouveau où on protège pour une maladie qui se déclare dans 20 ans. Dominique.
Oui. Dominique Martin l'a évoqué. C'est pas vrai que c'est vrai pour tous les vaccins. Hein. Quand vous vaccinez contre la polio, brutalement, dès qu'on a lancé la vaccination, la polio a quasiment disparu chez les vaccinés. Et donc là, il y a quand même cet effet de durée. En fait, face au public qui se pose des questions, la réponse est... On a de bonnes raisons de penser que ce vaccin va protéger d'une maladie grave, qui est le cancer du col, et on a de bonnes raisons de penser qu'il n'expose pas à un risque significatif de maladie grave. Voilà, maintenant, tout ça, il y a quand même des points d'interrogation, et donc le débat doit se faire pour chaque personne avec son médecin en qui il a confiance.
Est-ce que ça mérite du coup une nouvelle campagne de vaccination ou pas, Dominique Dupagne?
Elle est en cours, de toute façon, ce vaccin est recommandé officiellement.
Oui, mais est-ce qu'il faut du coup amplifier la campagne ou pas?
Disons que là, le problème, c'est de convaincre les gens. Les gens ont été tellement secoués par toutes les affaires qui est autour du vaccin contre la grippe H1N1, qu'ils ont perdu confiance dans les autorités sanitaires. Et donc, le travail, c'est un travail de confiance qui doit être fait à partir de comportements vertueux. Et il faut donner des informations. Et je dois dire que cette étude va dans ce sens, c'est-à-dire qu'on apporte une réponse scientifique à une question que se posaient les gens, à savoir, est-ce que si je vaccine ma fille, elle est exposée à des maladies auto-immunes graves et fréquentes? La réponse est non, même si le Guillain-Barré va concerner 5 ou 6 jeunes filles de plus tous les ans si on vaccine tout le monde.
Merci beaucoup à tous les deux, Dominique Dupagne et Dominique Martin. Étude rendue publique donc ce matin. Merci beaucoup d'être passé dans la tête au carré. Au revoir. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, 3700 secouristes, travailleurs et policiers atteints de cancer. Voilà donc le deuxième bilan des attentats du 11 septembre 2001. 14 ans après l'effondrement des tours jumelles du World Trade Center, eh bien, cet attentat continue de faire des victimes. 37 000 personnes s'étaient mobilisées sur Ground Zero à la suite des événements. Les produits toxiques et les fumées sont suspectés d'avoir causé chez eux de nombreux cas de leucémie, de cancer, de la prostate, de la thyroïde ou encore du côlon. Le record le plus long du séjour dans l'espace vient d'être battu. Le cosmonaute russe Gennady Padlaka a passé 879 jours cumulés dans l'espace. Il a atterri samedi à 00h50 sur une steppe aride du Kazakhstan au terme de sa 5e mission vers l'ISS. Il avait battu le 28 juin dernier le record de 803 jours détenu par un autre russe, Sergei Krikalev. Et puis enfin des nouvelles de la sonde New Horizon. Elle vient de transmettre à la NASA les dernières images de la planète Pluton en créant une nouvelle fois l'événement. Sur les photos, on découvre des dunes, des vallées, des coulées de glace, une diversité de reliefs exceptionnelle pour une planète dont on ne savait pas grand-chose. 95% des photos prises par New Horizons devraient parvenir à la Terre d'ici un an. En attendant, les dernières images sont à retrouver sur la page Facebook de La Tête au Carré et sur notre compte Twitter. La dyslexie, c'est donc le dossier de l'émission dans un instant avec mes invités et vos messages. Harder. High by the Beach, la voix de Lana Del Rey sur France Inter.
Moi, je confonds toujours le D et le T et le B et le P. Les feuilles de gêne, de bouleau, de peuplier. Oui, ça c'est un. J'ai mis un B et c'était un P. Des fois, quand j'écris et tout, tout le monde va vite et alors moi, je prends plus de temps et alors là, je me sens un peu plus différent. C'est pas un gros handicap, mais ça me freine un peu.
Voilà, c'est le portrait d'un enfant dyslexique, extrait d'un documentaire de la RTBF qui était passé en 2013. Et la dyslexie, c'est donc le dossier de la tête au carré pour mieux comprendre ce qui caractérise ces troubles de la lecture et de l'orthographe. Et puis bien sûr, comment les prendre en charge, où en est la recherche. Mes invités pour en parler, Franck Ramu, donc vous êtes chercheur en psychologie et en neurosciences au sein du laboratoire CNRS de sciences cognitives et psycholinguistiques, et puis à l'ENS. Et Marianne Chatriot, vous êtes pédiatre spécialisée dans les troubles du langage et des apprentissages. Et vous publier Les enfants chancelants, la vie par-delà la dyslexie, c'est aux éditions du Pommier. Les questions, les témoignages arrivent, nombreux, ça ne vous surprend pas évidemment, beaucoup de commentaires des auditeurs franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Ah, c'est vrai que beaucoup de gens connaissent maintenant ce mot de dyslexie, mais on s'embrouille quand même toujours un petit peu sur ce qu'il signifie. Qu'est-ce que ça définit exactement, Franck Ramu peut-être pour commencer?
Oui, donc la dyslexie, c'est un trouble spécifique de l'apprentissage du langage écrit, la lecture et l'écriture. Mmh. Et spécifique, ça veut dire que c'est pas un échec scolaire généralisé, c'est vraiment une difficulté qui est particulière au langage écrit, c'est-à-dire que c'est pas un enfant qui a une déficience intellectuelle, qui est mauvais partout, mais évidemment, vu le rôle central de la lecture dans tous les apprentissages scolaires, être en difficulté de lecture, ça peut avoir comme conséquence, ça fait un effet boule de neige, ça peut mettre l'enfant en situation d'échec scolaire.
Oui. Pour vous, votre définition, Marianne Chatriot, parce que vous dites dans votre livre, on devrait l'appeler trouble du langage écrit. Ce serait plus simple, finalement, que d'appeler ce mot de dyslexie.
Oui, en fait, c'est peut-être une convention de langage, mais c'est la même définition. On a tous la même. Heureusement, c'est un trouble de l'acquisition du langage écrit qui est notable par rapport à une norme, la norme des enfants selon leur âge, qui n'est pas explicable par un trouble neurologique ou un trouble psychiatrique, ou surtout le plus souvent une déficience intellectuelle. Mmh. Et qui va durer, qui est durable.
Oui.
Et qui a, pour substratum, on y reviendra, un dysfonctionnement cérébral.
Oui, quand vous dites durable, qu'est-ce que ça signifie exactement?
Durable, ça peut être toute la vie. Ça peut être pas mal compensé pour certains selon la sévérité initiale du trouble. Mais en gros, les séquelles quand même sont fréquentes. Et la plus importante des séquelles, c'est la lenteur à lire et la dysorthographie.
Oui, donc ça peut rester toute la vie, même dans celle d'un adulte, donc.
Oui, parce que comme on n'a pas, on ne sait pas encore comment changer le cerveau et en remettre un autre qui n'aurait pas ce dysfonctionnement, oui, ça peut parler toute la vie.
Donc on tâtonne encore beaucoup, c'est ce que ça veut dire aussi, sur l'aide qu'on peut apporter à ce trouble?
Non, ça ne veut pas dire ça, parce qu'on ne tâtonne pas tant que ça maintenant, parce que ça fait presque 15 ou 20 ans qu'on s'y intéresse, et la dyslexie est le trouble le mieux connu des troubles 10. Ça veut dire qu'il y a des troubles sévères qui garderont des séquelles.
Oui. Le petit garçon dans l'extrait qu'on entendait disait « c'est pas un gros handicap ». Vous avez réagi en l'entendant prononcer cette phrase.
J'ai réagi surtout au fait qu'il disait « bon, je suis pas trop gêné, je me sens pas trop différent ». Parce que cette question de la différence, elle est aussi assez au centre de leur question.
Oui. Franck Ramu.
Oui, oui, j'embraye sur la question durable. Disons, on sait aider les enfants dyslexiques, ou en tout cas on sait aider la plupart d'entre eux. Simplement, on ne sait pas faire de miracles. Et donc, tous les enfants dyslexiques, les professionnels de l'éducation et de la santé compétents, peuvent les faire progresser, peuvent les amener à lire pour la plupart. Pour certains, ils vont même pouvoir faire des études supérieures. Mais effectivement, ils garderont toujours cette difficulté supplémentaire. Ils vont être des lecteurs plus lents. Ils vont arriver à lire, mais ça va être un effort plus intense pour eux que pour les autres. Mmh. Et puis souvent, ils vont garder des difficultés en orthographe.
Ouais, Lato sur Twitter nous dit « Il faut absolument redonner confiance à l'enfant, lui dire que ce trouble n'empêche pas de devenir un très grand de ce monde. De Vinci, Einstein, Spielberg. » Voilà, ce sont des noms de célébrités concernées par la dyslexie.
Mais il semble que oui. Elles sont en tout cas dites souvent comme telles. En tout cas, je partage beaucoup cette idée qu'il faut donner confiance. Et peut-être que c'est pas obligé d'être Einstein, mais déjà être soi-même et avoir un avenir heureux, c'est déjà pas mal et c'est possible.
Oui, Franck Ramu, Julien nous dit sur franceinter.fr, Einstein était dyslexique, décidément il revient souvent. Les personnes à haut potentiel sont-elles plus souvent sujettes à ce trouble?
Oui, alors moi je goûte assez peu les diagnostics posthumes et basés sur aucune donnée finalement, je n'y crois pas.
Surtout qu'on parle beaucoup de choses à Einstein.
Mais ça reste juste de dire qu'une personne dyslexique peut être quelqu'un de très brillant intellectuellement et faire des très grandes études et être un chercheur de très haut niveau comme l'a été Einstein, c'est pas incompatible en tout cas. Après, est-ce que les enfants précoces ou à haut potentiel sont plus souvent dyslexiques que les autres? On entend souvent ça affirmer, mais en fait il n'y a aucune preuve de cela. Ce qui est sûr, c'est que la dyslexie n'est pas incompatible avec un très haut potentiel intellectuel. Ou vice-versa, avoir une très haute intelligence ne vaccine pas contre la dyslexie. Mais il n'y a aucune preuve que les deux surviennent ensemble plus fréquemment que ce qu'on s'attendrait à.
Il y a beaucoup de messages sur la prise en charge de ce trouble par l'Éducation nationale. On va y revenir tout au long de l'émission, évidemment. Un mot quand même sur le nombre de personnes concernées. C'est 5% des enfants, c'est quand même un chiffre très important. En grande majorité des garçons, trois fois plus de garçons que de filles. Alors d'abord sur ce chiffre, 5%.
Oui, c'est la meilleure estimation qu'on a, sachant qu'il n'y a jamais eu d'études de prévalence en France et qu'on se base sur des données qui sont un peu éparses et qui viennent d'autres pays.
On dit entre
pays.
5 et 15% parfois.
Oui, alors 15% sont très larges. Très exagéré d'aller au-delà de 10%. Je pense que 5%, c'est une estimation à peu près raisonnable. Mm-hmm. Il faut de toute façon avoir conscience que à chaque fois qu'on donne un pourcentage, ça dépend d'un seuil qu'on a prédéfini et qui est forcément un petit peu arbitraire.
Oui, Marianne Chatriot sur ces chiffres. Et le fait que les garçons soient plus concernés que les filles, est-ce que ça, on sait pourquoi?
On sait pourquoi, on demandera à Monsieur Ramu sur la génétique de la dyslexie. En tout cas, on le constate en clinique, il y a beaucoup plus de garçons. Alors, je pensais peut-être plus de près de 2 que de 3 entre les deux. Mais il y a beaucoup plus de garçons, c'est certain.
Alors, pourquoi Franck Ramu?
Donc effectivement, je dirais aussi plutôt 2 garçons pour une fille.
Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des garçons?
On n'a pas la réponse définitive à cette question. C'est sans doute pas une différence génétique, parce qu'a priori, les facteurs génétiques prédisposant à la dyslexie sont les mêmes chez les garçons et chez les filles. La meilleure hypothèse qu'on ait, c'est de dire juste que les prédispositions à la dyslexie agissent sur le cerveau de l'enfant, mâle et femelle, de manière différente, parce que le cerveau des filles et des garçons sont imprégnés d'hormones sexuelles qui sont différentes et que ça produit des réactions qui sont différentes. On a un peu cette idée, de manière générale, que le cerveau des filles est un petit peu plus résilient aux perturbations, qu'elles soient d'origine génétique ou qu'elles soient d'origine prénatale, périnatale. Ce qui fait que pour beaucoup de troubles du développement du cerveau, les garçons sont plus affectés.
D'accord. Est-ce que ça veut dire que le cerveau a un sexe, Franck Ramu? Je sais que vous avez beaucoup étudié la question.
Je ne l'ai pas beaucoup étudié. Non,
vous
mais
en avez parlé, en tout cas.
Il y a pas mal de données qui suggèrent qu'effectivement, les cerveaux des garçons et des filles ne sont pas strictement identiques. Et ça se traduit notamment par des prévalences différentes d'un certain nombre de troubles du cerveau.
Bon, tout le monde n'est pas d'accord, c'est bien une entendu. Question très épineuse au sein même des sciences, mais bon, c'est pas le débat.
Mais enfin, c'est vrai qu'il est probable que toute cette différence se retrouve dans tous les troubles 10, la dyspraxie, la dysphasie, il y a plus de garçons.
Oui. D'ailleurs, on peut en profiter pour dire qu'une journée des 10 aura lieu le 10 octobre. Ce sont les associations de familles d'enfants dyslexiques qui organisent ces événements, Franck Ramu, avec des manifestations partout en France. Ça dure une semaine en réalité.
Oui, absolument, toute la semaine autour du 10 octobre, les associations organisent.
Le 10-10, c'est évidemment un moyen mnémotechnique.
Des séries conférences dans toutes les régions de France et voilà, ça permet aux familles de se rassembler, d'attirer un petit peu les enseignants qui ont envie d'avoir des informations et voilà, de parler de la dyslexie une fois par an.
Allez, beaucoup de messages, une auditrice nous dit ceci, ma fille est 10, c'est ce qui me fait bondir aujourd'hui, ce n'est pas qu'on ne sache pas quel est son handicap ni comment l'aider à compenser, ni d'où il vient, mais c'est plutôt la manière dont on la traite. L'éducation nationale est totalement dépassée, à l'heure actuelle tout est organisé pour faire sortir les enfants 10 du système scolaire traditionnel. La réponse de la pédiatre Marianne Chatriot là-dessus?
Non, je comprends l'interrogation de cette maman et probablement que c'est difficile et je connais pas le cas de cet enfant, mais non, on peut pas dire ça tout de même. Depuis 15 ans, on a fait beaucoup de choses et l'éducation a fait beaucoup de choses. D'abord en 2001 dans ce plan pour la lecture et de plus en plus, elle fait des choses qui concernent les aménagements scolaires. Et on en parlera peut-être de ce plan d'accompagnement personnalisé plus tard.
Allez, on se retrouve dans un instant. Il y a beaucoup de messages pour vous. Je vous les transmets évidemment. C'est le dossier aujourd'hui de notre Tête au carré. Juste après, Mansfield Tia. Bleu Lagon, Mansfield, Tia sur France Inter, dans La Tête au Carré, et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.
La Tête au Carré, Mathieu Vidard.
La dyslexie, dossier donc dans La Tête au Carré. Franck Ramu, chercheur en psychologie et neurosciences avec nous, ainsi que la pédiatre Marianne Chatriot avec ce livre « Les enfants chancelants » qui est paru en cette rentrée. La vie par-delà la dyslexie aux éditions Le Pommier. Il y a énormément de questions pour vous, donc j'aimerais vraiment qu'on y consacre une large part de ce dossier. Un mot sur l'apparition des premiers symptômes. À quel moment d'abord, en général, apparaît la dyslexie chez l'enfant, Marianne Chatriot?
Par définition, quand on est exposé à la lecture, c'est-à-dire au CP, on peut avoir, on y reviendra peut-être, des petits signes qui inquiètent en grande section avec des enfants qui ont du mal avec les rimes. Qu'est-ce qui rime avec bateau, râteau Mais par contre, c'est au CP que tout commence, chez des enfants qui, par ailleurs, allaient très bien, parfois, souvent, et qui ont du mal à rentrer dans le décollage de la lecture, c'est-à-dire à parfois décoder que le son B et le son A ensemble, ça fait bas, et attacher les mots, c'est-à-dire à déchiffrer, au fond.
Et comment ça se manifeste, donc? C'est cette lecture hésitante dont vous parliez un petit peu tout à l'heure?
C'est plus qu'hésitant, c'est
parce
que avant d'hésiter, il faut déjà savoir lire, et donc il y a des enfants qui ne rentrent pas dedans, et donc qui, en janvier du CP, ne savent encore pas lire des syllabes simples, par exemple. Donc ça, ce sont des enfants qui ont des grandes difficultés avec la correspondance entre les sons et les lettres, c'est-à-dire le déchiffrage.
Sur Twitter, Laurence demande, est-ce qu'il y a plus de dyslexie dans une langue en particulier ou pas, à la lumière des études internationales, est-ce qu'on peut en dire quelque chose?
Oui, tout à fait. Peut-être, Monsieur Ramur, si on a le temps, le redira de manière plus explicite. Le français est une langue qu'on dit non régulière, c'est-à-dire beaucoup de façons d'écrire, de dire le son O, par exemple. On peut l'écrire A-U, O-T, E-A-U, etc. plusieurs fois, et ça complique énormément les choses. Donc le français est une ligne dyslexique, un peu moins que l'anglais, mais beaucoup plus que l'italien.
Franck Ramu, pour compléter.
Oui, effectivement, si vous voulez, les prédispositions à la dyslexie interagissent avec la complexité de l'orthographe de la langue à apprendre. Et les langues avec l'orthographe la plus complexe et irrégulière sont l'anglais et le français. Et c'est là qu'effectivement les symptômes de la dyslexie sont les plus graves et que le nombre d'enfants en difficulté est le plus grand.
Oui. Sur Twitter, Galien nous dit ceci. J'ai toujours eu du mal à former mes lettres. Je ne les finis pas. J'y reviens. Je suis donc très lent à l'écriture. Je n'ai jamais pu suivre une dictée, mais je suis devenu ingénieur. Est-ce une forme de dyslexie?
On dirait plutôt une forme de dysgraphie, puisque la dysgraphie, c'est justement une difficulté à écrire, à faire le geste d'écriture. Comme cette personne ne parle pas de difficulté à lire, on n'a pas envie d'évoquer la dyslexie.
Oui. Alors, ce qu'on voit justement avec la dyslexie, c'est que d'autres troubles sont souvent associés, Franck Ramu?
Oui, alors de manière générale, la plupart des troubles du développement chez l'enfant ont tendance à arriver, pas tout seul, mais associés avec d'autres. Donc, en l'occurrence, les différents troubles des apprentissages, la dyslexie est souvent associée à la dyspraxie, donc une difficulté à coordonner les gestes, à la dysorthographie, évidemment, à des troubles d'attention avec ou sans hyperactivité, etc. Quand je dis souvent associé, c'est pas toujours. Il y a des dyslexiques purs, mais à peu près 30% d'entre eux ont aussi une dyspraxie, 30% d'entre eux ou 50% ont aussi un trouble d'attention, etc. Donc, ça produit chez un certain nombre d'enfants des profils qui sont assez complexes à gérer.
Françoise nous dit ceci, mon frère et moi avons hérité de la dyslexie de notre père. Ma fille de 2 ans semble déjà inverser les syllabes palin pour lapin. Est-ce que j'ai de bonnes raisons de penser qu'elle soit elle aussi dyslexique? Marianne Chatriot, peut-être pour répondre.
Alors d'abord,
à cette auditrice.
Elle est petite, mais c'est vrai que, vu les antécédents, il y a des questions qu'on peut légitimement se poser. Alors l'inversion des lettres, c'est le langage oral, et pour le moment, donc, elle a une difficulté avec le langage oral, dont on sait qu'elle peut être associée au langage écrit, donc c'est légitime de se poser la question.
D'où l'idée, évidemment, de repérer très tôt ce qui se passe chez l'enfant. On va écouter un extrait d'un reportage que, justement, Lucie Sarfati avait réalisé pour l'émission sur les docs, voir le cerveau, penser la recherche à Neurospin, où elle avait rencontré Ghislaine Dehaene, pédiatre et directrice de recherche au CNRS dans cette équipe neuroimagerie du développement. C'est un laboratoire consacré aux bébés.
Voilà donc le petit Martin assis sur les genoux de son père dans une cage de Faraday. Un casque d'électrode sur la tête, il regarde attentivement l'écran sur lequel un visage de dame articule bien distinctement des syllabes. De l'autre côté, les chercheuses peuvent suivre grâce à une webcam ce qu'il se passe à l'intérieur de la cabine. Sur un deuxième écran, la machine reproduit en direct, sous forme de courbe, l'activité électrique du cerveau de Martin.
Les Finlandais, qui ont beaucoup travaillé sur une petite population homogène, ils ont essayé de regarder si on pouvait déjà prédire à la naissance si un enfant allait avoir des risques de dyslexie ou pas. Et donc, ils ont enregistré, avec les méthodes comme le EEG, la réponse chez ces nouveau-nés à des syllabes, ba, da. Et puis, si on fait ba, 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 da, est-ce que le cerveau va répondre à la différence ? Et ils ont pu montrer que les enfants qui avaient une mauvaise réponse électrophysiologique, c'est-à-dire on ne voyait pas, quand on passait de ba à da, une réponse très nette, avaient plus de risques de troubles de la lecture que ceux qui avaient une réponse très nette.
Voilà, Franck Ramu, vous connaissez évidemment bien ses recherches. Un commentaire, est-ce qu'on peut prédire vraiment à la naissance aujourd'hui, sitôt ?
Disons, prédire, tout dépend de ce qu'on veut dire par prédire. La dyslexie n'est pas gravée dans le marbre à la naissance. Il y a quand même toute une marge de manœuvre dans le développement de l'enfant. Mm-hmm. Simplement, on peut prédire avec une certaine probabilité, étant donné les antécédents familiaux de l'enfant, étant donné les capacités de perception de la parole, par exemple, qu'on peut mesurer dans les expériences qu'a expliqué Ghislaine Dehaene. Effectivement, on peut dire si un enfant est plus ou moins à risque de devenir dyslexique. Oui. Mais c'est loin d'être une prédiction absolue et
déterministe. Hein.
Non, il n'y a pas de déterminisme.
Ouais, c'est comme les gènes, d'ailleurs, on en parlera avec vous tout à l'heure. Marianne Chatriot, cette question de Sophie, la dyslexie peut-elle avoir un rapport avec la grande prématurité ?
Pas de manière certaine, sauf en cas évidemment de lésion cérébrale qui serait la conséquence, elle, de la prématurité. Alors là, oui.
Yannick nous dit, le diagnostic mettant l'enfant dans la case dyslexique est-elle vraiment fiable ? Est-ce qu'on ne met pas trop facilement justement les enfants en difficulté scolaire sous cette étiquette ? J'aimerais avoir votre avis à tous les deux, Franck Ramu.
Oui, tout dépend qui fait le diagnostic et comment. Hein. Là, c'est le problème de la compétence des différents intervenants. Mm-hmm. C'est vrai qu'il y a des gens qui, donc par exemple peut-être des enseignants ou des orthophonistes qui étiquettent les enfants comme étant dyslexiques de manière un petit peu rapide. Mm-hmm. Alors que d'autres, au contraire, font une rétention de diagnostic et veulent pas le fournir. Donc, c'est là qu'il faut trouver un petit peu le juste équilibre. De manière générale, je pense que ce qu'il faut surtout éviter, c'est le diagnostic trop précoce. C'est pas au milieu du CP qu'on peut encore faire un diagnostic de dyslexie, parce que au cours du CP, il y a plein d'enfants qui peuvent être en difficulté passagère d'apprentissage de la lecture. L'année prochaine, on le verra plus. Mm-hmm. Et donc, en général, il faut attendre au moins la fin du CE1 avant de prononcer un véritable diagnostic pour être sûr que l'enfant, malgré 2 ans d'enseignement de la lecture, est toujours en échec durable.
Marianne Chatriot.
Oui, ceci dit, on n'attend pas toujours la fin d'un CE1 quand un enfant a un trouble sévère, même si on ne pose pas le diagnostic, on dit que de toute façon, il a un trouble d'acquisition du langage écrit et il faut s'en occuper. Et je dirais, pour reprendre la question tout à l'heure, c'est vrai que les mauvais lecteurs, entre guillemets, qui ne sont pas dyslexiques, il faut s'en occuper aussi.
Un autre témoignage, Florent, est-ce qu'on peut vivre sa vie normalement et découvrir que l'on est légèrement dyslexique tardivement, à 40 ans, et si oui, est-il trop tard pour se faire soigner ?
Oui, c'est vrai, on peut tout à fait le découvrir et on peut évidemment essayer d'y remédier soi-même avec des programmes ou avec l'aide d'une orthophoniste, c'est tout à fait possible.
Alors Franck Ramu, sur les causes de la dyslexie, évidemment là aussi à la lumière des recherches en neurosciences, puisque maintenant on a bien avancé sur ce terrain depuis les années 90 aussi, avec les outils qui ont permis vraiment de mieux comprendre comment... intervient cette maladie.
Disons, les causes de la dyslexie, ça peut se voir à différents niveaux. À la base, on peut regarder au niveau cognitif, au niveau du traitement de l'information par le cerveau, et voir que l'enfant a effectivement du mal à traiter les sons de la parole, à se représenter les sons de la parole, ce qui va engendrer des difficultés quand il va falloir apprendre les associations entre ces sons de la parole et les lettres.
C'est ce que vous appelez le déficit phonologique, qui est au cœur vraiment.
On pense que pour la grande majorité des enfants dyslexiques, ce déficit phonologique est effectivement la cause directe du trouble d'apprentissage de la lecture. Alors pourquoi certains enfants ont un déficit phonologique ? Parce que certaines régions de leur cerveau fonctionnent de manière un peu différente de celle des autres. Et pourquoi certains enfants ont un cerveau qui fonctionne de manière un peu différente ? Eh bien, par une combinaison de facteurs complexes qui incluent des facteurs génétiques et puis qui incluent des facteurs non génétiques aussi, environnementaux. La prématurité peut être un facteur de risque, comme plein d'autres, évidemment.
Marianne Chatriot, la lecture, c'est une affaire de son, c'est ce que vous rappelez aussi, mais c'est ça. Hein.
C'est la même chose. Moi, j'ai essayé de dire dans ce livre des choses très simples. Alors après, quand on dit des choses simples, on ne dit pas forcément toute la vérité. Il y a des choses au sens... Il y a d'autres dyslexies peut-être plus visuelles, mais il y en a peu. Et donc, je pense qu'il y a bien déjà de dire des choses simples. exemple, la dyslexie, c'est une affaire de son.
Oui.
Et la lecture, c'est une affaire de son. Et il y a des gens, j'avais une jeune fille qui me faisait remarquer qu'elle ne s'était jamais rendue compte que lire, ça avait à voir avec les sons. Parce que quand c'est naturel, on ne s'en rend pas compte.
C'est vrai.
Mais quand on est dyslexique, on s'en rend vite compte.
Absolument. Et c'est important justement de pouvoir observer très tôt ce qui se passe dans ce rapport au son chez l'enfant, Franck Ramu, pour pouvoir prédire peut-être une dyslexie possible.
Ça peut se voir, ça peut s'évaluer avant l'arrivée au CP. Effectivement, dès la maternelle, les enfants font des activités avec le langage oral, ils apprennent des comptines, ils apprennent à faire des rimes. En grande section, on commence à les sensibiliser aux phonèmes, etc., à compter le nombre de syllabes dans un mot. Tout ça, c'est des activités qui mettent en jeu ces fameuses capacités phonologiques. Et dès la maternelle, on voit des enfants qui, effectivement, ont des difficultés dans ces composantes du langage oral. Et voilà, on sait que ça constitue un facteur de risque pour développer la dyslexie par la suite.
Alba nous dit « Je suis dyslexique grâce à ma mère, je suis allé voir un orthophoniste. Les instituteurs voulaient seulement me faire redoubler. Maintenant, je suis interne en médecine. » Il y a plein de témoignages réjouissants quand
très
même.
Très bien, mais oui, mais heureusement, chouette, je suis contente parce qu'il faut dire qu'on peut sortir. Très bien faire.
Allez, on se retrouve dans un instant. Beaucoup de messages, énormément de témoignages. Franceinter.fr, vous poursuivez vos envois, évidemment, nous lisons vos messages.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. It's a bright night, there's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard, I wanna fly away. I wanna fly. Fly, fly away, yeah. I wanna fly. Fly, fly away.
Fly, fly.
Dirty Boulevard avec Lou Reed à l'instant sur France Inter. La dyslexie au cœur de notre dossier. Et Antoine, 11 ans.
On en a trop.
T'es en B.
Ok, tu veux le faire en vert ?
T'es en B. P. T.
Tu le vois dans ta tête ?
Attends. T. R. O. P.
Ouais.
P. O.
il y a beaucoup de lettres là, non?
Oui.
Voilà, effectivement, il y a beaucoup de lettres, hein, surtout pour un enfant de 11 ans qui présente ce trouble.
Oui, parce qu'il a toujours, comme on l'a dit, ce problème avec les sons, de discriminer des sons proches. Il y avait le P et le T dans cet exemple, et puis de les garder dans cette fameuse mémoire de travail dont on parle beaucoup, et toutes ces choses qui font la dyslexie.
Franck Ramu, encore un petit mot sur les origines génétiques de la dyslexie. Qu'est-ce qu'on sait vraiment exactement à ce sujet aujourd'hui? On ne parle pas des gènes de la dyslexie, il y a des facteurs prédisposants, mais...
Oui, donc d'une part, on sait que c'est héritable, c'est-à-dire qu'il y a environ 50% de facteurs génétiques impliqués et 50% de facteurs non génétiques, donc environnementaux, ce qui a pour conséquence que quand un des deux parents est dyslexique, la probabilité pour chaque enfant d'être dyslexique est aussi d'environ 50%. Et puis, effectivement, les recherches en génétique moléculaire qui ont démarré dans les années 2000 ont permis d'identifier certains gènes, dont des variantes, sont associés avec une augmentation de la probabilité de devenir dyslexique. Donc ce sont des facteurs de susceptibilité, on va dire, qui agissent de manière probabiliste. Et il y a plusieurs gènes qui sont associés à la dyslexie. Et si vous voulez, c'est la combinaison de tous ces facteurs génétiques et des facteurs environnementaux qui interagissent avec, qui fait qu'un individu a plus ou moins de prédisposition à devenir dyslexique.
Est-ce que vous, en tant que chercheur, vous les rencontrez, ces enfants dyslexiques, au sein de votre laboratoire?
Oui, tout notre recherche est expérimentale, c'est-à-dire qu'on fait des tests avec les enfants dyslexiques, on les a mis dans l'IRM, on regarde leur cerveau, on a prélevé leur sang, on regarde leur ADN aussi.
Et vous les avez sortis de l'IRM aussi, rassurez-nous. Hein.
Bien entendu.
Vous ne pouvez pas les mettre dedans. Comment amener les institutions et les enseignants à reconnaître ce trouble qui ne se voit pas, demande Vraz sur Twitter, Marianne Chatriot. Alors, l'accompagnement, évidemment, la prise en charge, c'est la dernière partie de ce dossier.
Pour les enseignants, il y a quand même un certain nombre d'années qu'ils sont sensibilisés à cette question. Après, il y a des différences énormes selon l'endroit où on est, selon la formation initiale qu'on a reçue. Il y a très peu de formation initiale pour les enseignants. Ça reste une question
cruciale,
très importante.
Continuons.
Après, il y a quand même beaucoup de données et de personnes ressources. Il faut essayer de compter sur celles-là.
Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enseignants n'ont pas encore une idée claire du processus d'apprentissage de la lecture, Franck Ramu?
Ben, ça dépend lesquels, ça dépend de la formation qu'ils ont reçue. Bon, sur l'apprentissage de la lecture, normalement, c'est quand même bien rentré dans les programmes. Mais c'est vrai que sur la dyslexie, les troubles des apprentissages, comme le disait madame, la formation des enseignants, elle est très, très, très faible. Et donc, c'est vrai que la plupart sont démunis la première fois qu'ils ont un enfant dyslexique dans leur classe, ou un enfant avec n'importe quel type de handicap, d'ailleurs. Et c'est vrai que pour ça, si l'information ne vient pas automatiquement à eux, il faut qu'ils aillent un petit peu la chercher. Et en l'occurrence, pour les troubles 10, s'ils tapent quelques mots-clés sur un moteur de recherche comme aménagement enfant 10, ils vont trouver quand même quantité de documents qui ont été rédigés pour eux et qui sont bien faits, y compris des documents officiels de l'Éducation nationale. Par exemple, ce qui est sorti au bulletin officiel en janvier 2015 sur le plan d'accompagnement personnalisé, ou des documents qui ont été faits par des inspecteurs ASH et qui décrivent par le menu tous les aménagements qu'on peut proposer à des enfants avec troubles d'apprentissage, ou encore des documents qui ont été constitués par des associations de familles. Il y a des tas de choses très, très bien inspirées qui sont disponibles sur Internet. Il faut que les enseignants aillent chercher de l'aide à ce niveau-là.
Et donc, développer cette conscience phonologique dont vous nous parliez tout à l'heure, c'est ce qui est vraiment au cœur aussi là des enjeux?
Oui, ça fait partie des choses à faire. On la développe déjà, c'est au programme de la maternelle, donc ça se fait déjà. Mmh. Et c'est vrai que les enfants dyslexiques, ils ont ce déficit en conscience phonologique, donc ils ont besoin de la travailler plus que les autres.
Un témoignage de Rémi, et je vous passe la parole à Marianne Chatriot. Je confirme ce que je viens d'entendre. Nous avons retiré notre fils de l'école publique, incapable de le gérer, et malgré ses mauvais résultats en lecture et écriture, impossible de le faire redoubler. Nous l'avons mis dans le privé, et depuis, il a bien été diagnostiqué et pris en compte dans son enseignement.
Oui, ça arrive, le diagnostic n'est pas toujours fait, ce n'est pas déjà toujours facile. Je dirais simplement, pour compléter la question tout à l'heure, que les enseignants, en dehors du décodage de stimuler le décollage pour les petits, il faut surtout mettre en place les aménagements pour les plus grands, puisqu'un enfant qui a des difficultés avec la lecture la garde un certain temps, il les garde pendant le primaire, il les garde parfois selon la sévérité au collège, et les aménagements ne sont pas les mêmes quand on est en CP, quand on est en CM1 ou quand on est au collège. Et tout ça, ça se décline dans le détail, et c'est quand même ça qui aide beaucoup les enfants à avoir une scolarité la plus proche possible de la norme.
Marion demande comment aider un enfant dyslexique dans ses devoirs. Et là, Dieu sait si les parents qui nous écoutent souffrent parfois du temps qu'ils doivent passer avec leurs enfants.
Ah là là, les devoirs. Déjà, moi j'ai un peu l'idée qu'il faudrait déjà en avoir pas trop, hein, parce qu'un enfant dyslexique est déjà plus fatigable, on le redira peut-être sur le plan neurologique, il met plus d'attention dans la lecture, ne peut pas faire des journées quand même qui dépassent les 7-8 heures, ça n'a pas de sens, et puis ensuite, ce qu'il fait pendant les devoirs, il peut le faire pendant un temps scolaire, donc déjà les limiter au maximum.
Ouais, Franck Ramu, sur les devoirs.
Oui, et puis c'est là que les aménagements sont importants, les devoirs, encore faut-il s'assurer qu'ils ont été bien notés par l'enfant sur son cahier. Or, s'il n'arrive pas à écrire correctement, déjà, il n'a pas les bons devoirs quand il essaye de les commencer à la maison. Donc, c'est là que c'est important de transmettre les devoirs directement à l'enfant sur un papier imprimé, sur une clé USB ou par email, transmettre les textes qu'il n'aura pas pu, carrément le cours, si l'enfant ne peut pas transcrire le cours quand le maître le dicte pendant la classe, et ben il a un cours qui est inexploitable au moment de faire les devoirs. Donc ça, c'est quand même très simple de le transmettre directement à l'enfant ou à la famille, ou de faire des photocopies du cours d'un camarade, de manière à ce que l'enfant dyslexique puisse étudier comme tous les autres.
Oulipo nous dit ceci, le B a un gros bidon, le D a un gros derrière, du simple jour, on m'a donné cette formule, la confusion entre ces deux lettres a été terminée, mais il restait encore du boulot.
Vous confirmez, Marianne? Je confirme. Ouais. C'est déjà pas mal. Il y a aussi bébé au lieu de bidon. Ça dépend, mais c'est déjà ça.
Est-ce que, demande Laurent sur Twitter, le dyslexique compense son handicap par une autre capacité cognitive, mémoire, auditive ou autre? Alors effectivement, il y a des circuits de compensation. Hein.
Oui, donc une des grandes clés d'amélioration des personnes dyslexiques, c'est effectivement de contourner leur problème, d'utiliser d'autres ressources cognitives pour pas venir au même résultat. Donc la compensation, c'est effectivement un mot-clé. Après, chacun le fait de manière un petit peu différente, avec ou sans l'aide d'un professionnel. Après, à ma connaissance, il n'y a pas une capacité cognitive particulière dans laquelle les dyslexiques seraient vraiment plus forts que les autres qui leur permettraient de compenser systématiquement.
Sonia, sur Twitter, on parlait des langues tout à l'heure. Est-ce que si quelqu'un est dyslexique en français, il l'est également dans une langue écrite, dans une autre langue écrite?
Oui, il a des chances d'avoir des difficultés avec l'anglais. Qui est encore plus dyslexiante. Après, il faut donc aménager certainement l'apprentissage de l'anglais. Après, c'est vrai que l'anglais reste une langue très utile et je ne suis pas sûre qu'il faille la supprimer à tout le monde. Mais enfin, il faut s'intéresser à son aménagement. Oui.
Amélie nous dit, est-ce qu'il est vrai que les dyslexiques ont une meilleure vision de l'espace étant, en tant que dyslexique et architecte, j'en suis persuadée.
C'est peut-être vrai pour elle, mais en moyenne, sur l'ensemble des dyslexiques, il n'y a pas de preuve dans ce sens.
Est-ce qu'on a établi un lien entre perturbateurs endocriniens et troubles dys?
Pas à ma connaissance.
Pas d'études là-dessus, en tout cas. Larry nous dit, les différentes méthodes d'apprentissage de la lecture ont-elles une incidence syllabique, semi-syllabique, globale?
Oui, alors, c'est des vastes débats, je ne rentrerai sûrement pas là-dedans. Oui. Mais je répondrai encore toujours la même chose. La lecture, c'est une question de son en grande partie. Et surtout pour les dyslexiques, il faut apprendre les bons sons.
Franck Ramu, les travaux de Stanislas Dehaene là-dessus, évidemment, sont très intéressants.
Oui,
aussi.
Oui, de manière générale, les enfants qui sont en difficulté de la lecture, ils bénéficient plus d'un enseignement qui est focalisé sur les associations entre les lettres et les sons et qui est vraiment très systématique et explicite.
Les gauchers nous écrivent nombreux, comme Jacqueline et Xavier. Je suis gaucher, gauchère, contrarié, dyslexique. Y a-t-il un lien entre les deux?
Moi, j'en suis pas sûr, mais je sais pas.
Bon. Selon vous, pas d'observation particulière là-dessus. Cécile, quel aménagement pour les adultes 10 dans le monde du travail?
Comme les grands enfants et les adolescents, hein, l'informatique vive notre époque et les outils informatiques. Hein. Mm-hmm. Quand on est fatigué de lire, écouter avec le lecteur vocal et puis utiliser Word pour se corriger, ou si vraiment on est très en difficulté, dicter avec son appareil simplement téléphonique.
François nous dit ceci, ce sera la dernière question. On nous a parlé d'une méthode pour aider les enfants dys qui consiste à mettre des lunettes à prisme et des semelles orthopédiques afin de travailler sur le cerveau et l'objet à fonctionner. Si j'ai bien compris, connaissez-vous cette méthode? Qu'en pensez-vous, Franck Ramu?
Oui, on la connaît, ainsi que plein d'autres méthodes fantaisistes. Le problème, c'est que la dyslexie, c'est un immense marché où plein de gens ont des méthodes miracles à proposer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'études scientifiques derrière qui établissent l'efficacité de ces méthodes et on n'a même pas de compréhension scientifique de la théorie qui serait derrière pour laquelle ça pourrait marcher. Donc il faut vraiment que les familles soient extrêmement prudentes avec toutes les méthodes miracles qu'on veut leur vendre.
Merci infiniment, en tout cas à tous les deux. Beaucoup, beaucoup de questions. C'était évidemment un dossier très attendu par beaucoup d'enfants et de parents. Franck Ramu et Marianne Chatriot. Les enfants chancelants, c'est aux éditions Le Pommier.